Rencontre avec Nahiri Boudet, sexothérapeute et thérapeute de couple, récemment installée à Sisteron, qui répond aux questions de Chris Alessandri. Nahiri Boudet, vous êtes sexothérapeute et thérapeute de couple. Vous vous adressez donc aux personnes qui ont des problèmes sur leur sexualité en général. On peut dire ça comme ça ?
C'est justement quelque chose que je voulais aborder, en fait, que les relations affectives et sexuelles ne soient pas forcément abordées sous l'angle du problème, c'est-à-dire ne sont pas invitées à venir discuter de ces problématiques-là, uniquement les personnes qui souffrent forcément ou qui attendent le dernier moment juste avant de se séparer, mais vraiment les personnes qui se demandent « qu'est-ce que je veux faire avec mon conjoint ou avec ma partenaire ? De quelle façon on a envie d'habiter ensemble ? De quelle façon on a envie d'avancer ensemble ?» Quand par exemple la question d'un enfant se pose ou l'arrivée d'un enfant, et bien du coup la dynamique du couple va se réélaborer. De quelle façon est-ce qu'on peut se partager les tâches ménagères? Donc ça va du plus pragmatique à de quelle façon est-ce qu'on peut se rencontrer à nouveau amoureusement. Donc voilà, ça fait vraiment partie des clichés que j'essaye de démonter, c'est-à-dire on vient ici non pas parce qu'on a un problème sexuel, même si on peut rencontrer effectivement des dysfonctionnements de type sexuel et qui peuvent être vécus comme des problèmes. Mais à ce moment-là, le problème, de voir ça comme un problème, il s'agit déjà d'une interprétation. Pour moi, c'est un symptôme à partir duquel on va travailler, savoir qu'est-ce que ça signifie pour cette personne, de quelle façon est-ce que ça agit dans sa vie, sur son couple, et comment apprendre à vivre avec ou bien dépasser ça.
On a bien compris, on est vraiment dans le domaine de l'intime. On aborde la sexualité du couple. De quelle façon est-ce qu'on arrive à être dans ce domaine rapidement avec un contact qui va se faire au départ? C'est vous qui allez lancer en quelque sorte un peu le pont, la liaison qu'il va y avoir entre les personnes qui vous rendent visite et vous.
Bah déjà, ce qui est très bien avec la sexothérapie, c'est que déjà, l'intitulé même de ma profession fait que c'est très concret. Donc les personnes qui viennent ont déjà une idée concrète de la problématique, de quelle manière elles vont présenter leur problématique. Ça peut être quelque chose de très trivial, hein, comme j'ai des problèmes de dysfonction érectile, ou bien je n'arrive pas à jouir, ou bien je n'ai pas de désir pour mon partenaire et cela pose problème dans mon couple. Donc on part vraiment de quelque chose de très pragmatique et puis on essaye de déconstruire. Comme je l'explique en fait à mes patients, c'est qu'il y a une relation de confiance qui s'instaure, mais c'est pas un donné. C'est-à-dire que c'est pas on arrive ici et puis paf, on se fait confiance. C'est comme une amitié, ça se construit, c'est un processus. Là, c'est la même chose. Moi, je me présente aussi, j'explique comment je travaille lors de la première séance, pour quelles raisons est-ce que je prends des notes, comment est-ce que je retravaille mes notes avec de la bibliographie, avec de la théorie, pourquoi est-ce que je fais telle ou telle hypothèse, comment est-ce qu'on peut avancer. Voilà, donc c'est vraiment un co-travail et j'estime que c'est de cette façon-là qu'on peut arriver à développer une relation de confiance. Ce qui relève de l'intime peut être abordé, du coup en toute sécurité.
Nahiri, vous intervenez dans plusieurs domaines, alors que ce soit pour les adolescents, le couple, la personne individuelle. Quel est le rayon d'action que vous avez ?
Je dirais que je reçois une population qui va de 7-8 ans à 75 ans, avec évidemment une majorité de personnes entre 30 et 60. Mais c'est vrai que, par exemple, pour toutes les questions qui touchent à la pornographie, les jeunes enfants, par exemple, qui sont amenés parfois à tomber sur de la pornographie et qui ne savent pas forcément comment interpréter ce qu'ils ont vu ou qui... je parle pas forcément de traumatisme, mais qui ne savent pas forcément comment se positionner par rapport à ça. Et il manque un discours des adultes qui puisse les aider à contextualiser ce qu'ils ont vu ou entendu ou que les copains ont montré. Donc du coup, je reçois des parents qui sont inquiets pour leurs enfants, des jeunes adolescents qui se questionnent sur leurs pratiques par rapport à la pornographie ou bien tout simplement par rapport aux réseaux sociaux, comment exister sexuellement sur les réseaux sociaux, par rapport aux groupes d'amis, comment exister en tant que femme, comment exister en tant qu'homme, doit-on pour autant montrer ses attributs féminins, masculins? Voilà, donc, et finalement, ce sont des problématiques qui nous touchent tous, que l'on soit adolescent ou bien que l'on ait 70 ans.
Dans la routine du couple, entre guillemets, la routine, qu'est-ce que vous retrouvez comme, on va dire, comme profil de personne? Quels sont les conseils que vous pouvez donner? Est-ce que l'érotisme fait partie, par exemple, de ces conseils, de ces applications qu'il faut mettre peut-être en suggestion?
Il y a effectivement des sexologues qui mettent l'accent vraiment sur la vie sexuelle du couple. Moi, j'essaie de faire en sorte de questionner ce postulat, justement. On a tendance dans notre société à considérer que le sexe, c'est le ciment du couple, que lorsque on est en couple et qu'on n'a pas de relation sexuelle, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça me dérange profondément parce que ça crée de nombreuses inquiétudes dans le couple, justement. Est-ce qu'on fait assez l'amour? Est-ce qu'on se rencontre assez sexuellement? Est-ce que si je ne fais pas l'amour avec mon compagnon, est-ce qu'il va se mettre à désirer quelqu'un d'autre? Donc c'est surtout de quelle façon est-ce qu'on a envie de se rencontrer? À ce moment-là, oui, on peut préconiser la rencontre érotique, mais l'érotisme, c'est chaque personne a une vision particulière de ce qu'est l'érotisme. Nous avons tous des régions, des zones érogènes qui sont différentes du fait de notre histoire individuelle. Et donc, du coup, pour une personne A, ce qui est érotique ne sera pas la même chose que pour une personne B. Donc, vraiment, on s'éloigne de tout ce qui est cliché, mettre de la dentelle rouge avec du vernis ou faire du sport pour avoir des abdos. C'est de quelle façon est-ce qu'on peut se rencontrer pour se désirer? Comment créer un contexte à l'intérieur duquel on peut éprouver du désir? Sachant que là aussi, c'est un processus, comme la confiance. C'est pas tout d'un coup, je me réveille et j'ai du désir. C'est qu'il y a un préalable à la construction du désir. Et donc, pour cela, il faut se rencontrer, il faut se toucher. Il n'y a pas de « il faut », mais c'est-à-dire, c'est qu'est-ce qui me fait du bien, en fait? Pour être désiré, je dois être aussi désirant. Et donc, c'est un cercle comme ça. Je suis désiré, désirant, désiré, désirant. Je suis désiré parce que je suis désirant. Et c'est comme ça qu'on avance, parce qu'on sent l'attention de l'autre, la reconnaissance dans le regard de l'autre et le désir naît à l'intérieur de toute cette dynamique. C'est vrai que ce qui me paraît important, c'est de faire un suivi, en fait, avec les personnes qui viennent au cabinet, que ce qui fasse le lien n'est pas uniquement les entretiens qui ont lieu au cabinet, mais aussi j'envoie régulièrement des messages pour prendre des nouvelles suite à des opérations, de grands changements de vie, pour savoir comment vont les personnes. En fait, ça me paraît important, parce que quand des fois on se revoit un mois après, j'aurais eu connaissance de certaines informations auparavant et puis on pourra aller plus vite. La consultation ne sera pas dédiée pendant un quart d'heure ou 20 minutes à la prise de connaissance du nouveau contexte. Mais j'aurais été déjà informée en avance, ce qui nous permet d'avancer plus rapidement. Et puis c'est vrai que ça a un coût au niveau des consultations. Donc plus vite on cible, mieux équipé on est, plus on avance avec méthodologie. Et puis il y a un attachement qui se crée aussi à la patientèle. Moi je trouve que tous mes patients ont quelque chose d'attachant. Je les trouve courageux, je les trouve intéressants. Et ils me permettent moi aussi de m'enrichir. Ça me fait plaisir, en fait, de prendre des nouvelles aussi.
Et sur le sujet délicat de la transidentité, est-ce que vous intervenez?
Moi, ça m'intéresse beaucoup, la transidentité, parce que les questions de genre m'ont interpellée depuis que je suis adolescente. Je me demandais qu'est-ce qui faisait qu'on était une fille ou qu'est-ce qui faisait qu'on était un garçon et est-ce qu'on n'était pas parfois à l'étroit, justement, dans ces catégories-là. Et pour moi, les personnes qui cherchent à sortir un petit peu de ces carcans, de fait, parce qu'elles ne se sentent pas à l'aise dans leur genre de naissance. Du coup, je trouve que c'est un sujet formidable que ce soit abordé, en fait, et mis en lumière, parce que ces personnes-là, je pense, peuvent permettre de renouveler le débat dans la société, en fait, entière, et y compris en milieu rural. Où c'est vrai que ces questionnements-là au sujet de la transidentité ne sont peut-être pas aussi mis en lumière que dans les grandes villes. En tout cas, j'ai déjà rencontré des jeunes ou des adultes qui ont effectué un parcours de transformation physique et qui du coup, ça pose aussi la question des zones érogènes justement. Par exemple, j'ai une patiente donc qui avait une poitrine de naissance, mais qui du coup avait voulu transformer son corps afin de correspondre à ce qui est attendu d'un corps masculin. mais qui aimait continuer à se toucher la poitrine. Et donc, du coup, elle se sentait gênée lorsqu'elle... Enfin, elle se sentait gênée lorsqu'elle se met en maillot de bain parce qu'elle avait cette poitrine qui ne correspondait pas à l'image que les autres baigneurs se faisaient d'un corps masculin. Et donc, du coup, elle a fini par se faire opérer. Et j'ai trouvé ce témoignage vraiment intéressant parce que qu'est-ce qui fait qu'on pense que c'est un corps féminin, un corps masculin ? Ce sont des personnes qui se sentent isolées et pourtant je pense que justement elles mettent en lumière des questionnements qui nous concernent tous en fait, le collectif.
Nahiri Boudet, nous sommes dans les Alpes de Haute-Provence, à Sisteron. Une professionnelle comme vous, on ne la trouve pas comme ça tous les jours. Comment ça se fait que vous êtes ici ?
Bien, c'est vrai que je suis venue m'installer il y a peu de temps dans la région parce que j'avais envie de montagne et de partir en fait de la ville, d'avoir un mode de vie on va dire plus slow, d'être plus concernée par ce que je fais et de ce que je cherchais dans la vie. Et en fait, la sexothérapie c'est aussi venu parce que je me questionnais moi sur ma sexualité, sur ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas. J'essayais de créer des liens avec ce que j'avais vécu avant, avec les personnes que j'avais rencontrées, avec le modèle parental avec lequel j'ai grandi. Et du coup, j'ai eu envie d'approfondir mes connaissances à ce sujet. Et quand j'ai entamé mes études en sexologie, je me suis dit que c'était un sujet tellement, tellement formidablement intéressant que peut-être que d'autres personnes qui se posaient les mêmes questions que moi auraient quelque chose à apprendre avec moi. Du coup, c'est vrai que je me suis toujours intéressée à l'autre avec un grand A et aux soins, et que j'aime beaucoup la parole comme mode d'action parce que la pensée se crée avec la parole. Le langage sert à complexifier la pensée. Ça me permet, parce que je dis des mots, ça me permet de fixer ma pensée d'une certaine façon, que ce ne soit pas juste des choses qui s'agitent dans ma tête. Et donc, je trouve que le verbal, c'est quelque chose de formidablement intéressant, avec méthodologie. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de parler et de raconter sa journée. On essaye, autour de la problématique pour laquelle la personne vient, on essaye de déconstruire, de voir ce qu'il y a derrière, d'établir une piste de travail qui va s'étaler sur plusieurs séances. Donc, le verbal plus la méthode, ça permet d'arriver à quelque chose de porteur, je crois, pour les personnes qui viennent. En tout cas, pour moi, je me sens bien dans ce que je fais. Et vous me disiez comment est-ce que je suis arrivée ici ? Ben, moi, par ce goût pour la nature, pour une autre façon de vivre, j'avais envie de faire un métier dans lequel je me sentirais bien, mais vraiment à ma place. J'étais destinée à la recherche en sciences humaines et sociales, ce qui m'intéressait beaucoup, donc c'était déjà tourné vers l'autre. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas ce volet thérapeutique que moi j'ai toujours perçu comme un plus parce que ça me permettrait d'agir concrètement pour un mieux-être.
C'est tout un travail d'investigation que vous mettez en œuvre. Est-ce qu'on peut parler de résultats ? Est-ce que vous les quantifiez ces résultats ? De quelle façon et quels sont-ils ?
Non. De toute manière, même par rapport à ce que je faisais dans la recherche en anthropologie sociale et culturelle, ça a toujours été le quali, moi, le qualitatif plus que le quantitatif. Les chiffres, c'est, pour moi, c'est pas assez proche de l'expérience humaine et de la complexité de l'expérience humaine. Ce que je vois, par exemple, avec des personnes qui viennent en thérapie de couple depuis plusieurs mois, je vois qu'il y a une complicité qui se crée et une façon de penser en équipe. Même si les problématiques sexuelles ne sont pas forcément réglées parce que souvent il y a des blocages qui sont vraiment compliqués à aller au-delà, eh bien n'empêche que ça devient plus facile d'en parler. Ça devient plus facile de dire non, ce soir, je ne suis pas disponible pour avoir une relation sexuelle avec toi parce que tu sais, j'ai mon blocage et je sais pas comment faire avec. Et puis il y a un dialogue qui peut être amorcé au lieu de deux personnes qui se retranchent sur leur position et qui prennent le discours de l'autre comme une blessure, comme quelque chose qui les blesse. Ça peut devenir un sujet du couple, justement. Un sujet sur lequel le couple peut s'exprimer, prendre position et agir. Et c'est là que moi, je vois un véritable changement. En tout cas, c'est dans la manière dont on va interpréter ce qui nous arrive. C'est ça qui importe davantage et c'est ça qui va mener à la résolution du problème sexuel ou conjugal. C'est à partir du moment où on va penser que l'autre est un ami avec lequel on fait équipe et non pas quelqu'un qui nous blesse ou quelqu'un qui est notre ennemi parfois.
Nous allons rappeler vos coordonnées, votre adresse et également peut-être les horaires d'ouverture.
Oui, alors moi je suis plutôt un bourreau de travail. Mon cabinet est ouvert de 8h à 20h du lundi au samedi. Après j'adapte effectivement en fonction de mes des consultations. Voilà, donc au D7 allée déjeuner, 04 200 Sisteron, donc dans la zone commerciale du Grand U. Récemment, on m'a fait une remarque en cabinet. Il y a des personnes qui me disent que parfois elles mettent du temps à appeler, alors même qu'elles ont constaté qu'il y avait une difficulté qui était rencontrée dans le couple ou sur le plan sexuel, qu'elles mettaient du temps à appeler avant de s'intéresser vraiment ou d'entreprendre quelque chose. Des personnes qui pensaient que ce n'était pas pour elles, mais pour les autres, celles qui avaient vraiment des problèmes. J'ai envie de dire, tous ceux qui se posent des questions, en fait, sont des personnes qui sont saines et qui cherchent un mieux-être, justement. Se poser une question, c'est déjà se demander qu'est-ce qu'on veut et affirmer ce que l'on ne veut pas. C'est, je crois, la démarche la plus saine qui soit. Et mon numéro de téléphone, c'est le 07 49 92 31 65.
Nairi Boudet, sexothérapeute et thérapeute de couple, assisteront pour Fréquence Mistral.